Origène, homélie sur Samuel, homélie 5 sur la nécromancienne. Chapitre 1, préambule. Ce qui a été lu est bien long, puisqu'il faut résumer, il y a quatre péricopes. On a lu d'abord la suite de ce qui concerne Nabal le Carmélite, puis le récit sur David, se cachant chez les gens de Ziph, est dénoncé par eux. Après quoi, Saül vient pour s'emparer de David, et une fois là, guette l'occasion. Mais David s'approche de Saül pendant qu'il dort, lui et ses gardes. Il lui prend sa lance et sa gourde d'eau, et il adresse après cela des reproches à ceux qui avaient la charge de garder le roi, et qui s'étaient endormis. À la suite venait le troisième récit, racontant que David s'est réfugié chez Ancus, fils de Hamac, roi de Guet, et montrant à quel point, après de nombreux exploits, il obtint sa faveur, puisque celui-ci lui dit « Je ferai de toi le chef de mes gardes du corps. » Ensuite, il y avait le célèbre récit sur la nécromancienne, et Samuel relatant que la nécromancienne a évoqué apparemment Samuel, et que Samuel a fait une prophétie à Saül. Puisqu'il y a quatre péricopes dont chacune contient un bon nombre d'événements, et des événements qui, même pour des gens capables de les expliquer, aurait de quoi occuper des heures, non d'une seule synaxe, mais de plusieurs, que l'évêque veuille bien choisir parmi les quatre, celle, quelle qu'elle soit, qu'il préfère, pour que nous nous en occupions. Qu'on explique, dit-il, ce qui concerne la nécromancienne. Chapitre 2. L'intérêt du sujet. Il y a des histoires qui ne nous touchent pas, et d'autres qui sont nécessaires pour nous faire espérer. Je parle d'histoire, car nous n'en sommes pas encore aux élévations spirituelles utiles pour tout homme qui sait où les faire ou les entendre. En ce qui concerne donc l'histoire, il y a des choses utiles pour tous et d'autres qui ne le sont pas pour tous. Ainsi, pour prendre un exemple, l'histoire de Lot et de ses filles a-t-elle une utilité au sens spirituel? Dieu le sait, comme le saurait aussi celui à qui il ferait la grâce de savoir expliquer ce passage. Mais au sens historique, on peut toujours chercher. Quel profit, en effet, ai-je attiré de Lot et de ses filles? Pareillement, quel profit ai-je attiré, si on se borne à la raconter, de l'histoire de Judas, de Tamar et de ce qui advint à cette dernière? Cependant, puisque l'histoire concernant Saül et la nécromancienne nous touche tous, c'est qu'il y a nécessairement une vérité dans la lettre du texte. Qui, en effet, après avoir quitté cette vie, voudrait être au pouvoir d'un petit démon, pour qu'une nécromancienne puisse évoquer non pas le premier venu des croyants, mais le prophète Samuel, dont Dieu dit par la bouche de Jérémie, « Même si Moïse et Samuel étaient devant moi, je ne les écouterai pas, eux non plus. » Et dont le prophète dit dans des hymnes, Moïse et Aaron sont parmi ses prêtres, et Samuel parmi ceux qui invoquent son nom. Ils invoquaient le Seigneur et ils les écoutaient, dans la colonne de nuée il leur parlait, et ailleurs, si Moïse et Samuel comparaissaient et me suppliaient, etc. N'est-il pas vrai que si un personnage de cette importance était sous terre et que la nécromancienne l'ait évoqué, un démon a le pouvoir sur une âme de prophète? Que dire? Ces choses sont-elles écrites? Sont-elles vraies ou ne sont-elles pas vraies? Si l'on dit qu'elles ne sont pas vraies, on encourage l'incroyance, et cela retombera sur la tête de ceux qui le disent. Mais si elles sont vraies, cela nous pose une question et fait problème. Chapitre 3. Nous savons bien que certains parmi nos frères résistent à l'écriture et disent « Je ne crois pas à la nécromancienne ». Quand la nécromancienne prétend qu'elle a vu Samuel, elle ment. Samuel n'a pas été évoqué. Samuel ne parle pas. Mais de même qu'il y a de faux prophètes qui affirment « Voici ce que dit le Seigneur » alors que le Seigneur n'a pas parlé, de même, ce petit démon ment lorsqu'il se fait fort d'évoquer quelqu'un à la demande de Saül. « Qui ferais-je monter? Fais-moi monter Samuel. » Voilà ce que disent ceux qui prétendent que cette histoire n'est pas vraie. Samuel en enfer. Samuel évoqué par la nécromancienne, lui prophète de choix, lui voué à Dieu depuis sa naissance, et dont on disait dès avant sa naissance qu'il vivrait dans le temple, lui qui en même temps qu'il a été sevré, a revêtu l'éphod, a porté le manteau double et est devenu prêtre du Seigneur, lui avec qui, tout enfant, le Seigneur s'entretenait et parlait, Samuel en enfer. Samuel dans les lieux souterrains, lui qui a recueilli la succession d'Élie, condamné par la Providence à cause des fautes et des illégalités commises par ses enfants. Samuel en enfer, lui que Dieu a exaucé au temps de la moisson de blé, en faisant venir la pluie du ciel. Samuel en enfer, lui qui a demandé avec tant d'assurance s'il avait jamais pris quelque chose qu'il convoitait. Il n'a pas pris de veau, pas pris de bœuf. Il a jugé et condamné le peuple en restant pauvre. Jamais il n'a désiré prendre quelque chose à un peuple comme celui-là. Samuel, pourquoi en enfer? Voyez ce qui s'ensuit si Samuel est en enfer. Samuel en enfer? Pourquoi pas aussi Abraham, Isaac et Jacob en enfer? Samuel en enfer? Pourquoi pas aussi Moïse qui est joint à Samuel dans la parole? Même si Moïse et Samuel comparaissaient, je n'écouterais pas ce peuple-là. Samuel en enfer? Pourquoi pas aussi Jérémie en enfer? Lui à qui il est dit, avant de t'avoir façonné dans le ventre de ta mère, je te connais, et avant que tu ne sortes du sein maternel, je t'ai sanctifié. En enfer aussi Isaïe, en enfer aussi Jérémie, en enfer tous les prophètes, en enfer. Chapitre 4. Voilà ce que dira celui qui ne veut pas assumer la difficulté d'expliquer que c'est vraiment Samuel qui a été évoqué. Mais puisqu'il faut être loyal quand on écoute les Écritures, maintenant que la question a été rebattue à nos oreilles avec vraisemblance et peut véritablement nous troubler et nous émouvoir, voyons si celui qui n'admet pas la vérité de cette histoire comprend bien l'Écriture, ou si, en partant d'une intention honorable, il ne dit pas le contraire de ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit en effet? Et la femme dit, qui te ferai-je monter? Dans la bouche de qui sont mis ces mots? La femme dit. Est-ce dans la bouche du Saint-Esprit, par qui nous croyons que l'Écriture a été écrite, ou dans la bouche de quelqu'un d'autre? Car, comme le savent aussi ceux qui se sont occupés de discours de toutes sortes, ce qui est mis dans la bouche du narrateur est partout la pensée de l'auteur. Or, pour ces discours-ci, on croit que l'auteur n'est pas un homme, mais que l'auteur est l'Esprit Saint qui a mû les hommes. Donc, c'est l'Esprit Saint qui déclare, et la femme dit, qui te ferai-je monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Qui est-ce qui déclare ensuite, et la femme vit Samuel, et la femme poussa un cri et dit d'une voix forte? Nous répondrons à l'homme qui nous a tant rebattu les oreilles et répété 1000 fois que Samuel n'était pas en enfer. La femme vit Samuel, c'est la voix du narrateur qui l'a dit. Et la femme, poussant un grand cri, dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé, tu es Saül? Le roi lui dit, qu'y a-t-il? N'aie pas peur, qu'as-tu vu? Et la femme dit à Saül, j'ai vu des dieux montant de la terre. Et il lui demanda, quelle était leur forme? Elle répondit, c'était un homme âgé qui montait, et il portait un manteau double. Le texte affirme que la femme a même vu le vêtement sacerdotal. Je sais que l'Écriture dit dans le sens de la thèse adverse, ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Il n'est donc pas extraordinaire que ses serviteurs se transforment aussi en serviteurs de la justice. Mais qu'est-ce que vit la femme, Samuel? Pourquoi n'est-il pas dit, la femme vit un démon qui se faisait passer pour Samuel? Il est écrit au contraire que Saül connut que c'était Samuel. Si ce n'était pas Samuel, il aurait fallu écrire et Saül s'imaginait que c'était Samuel. Mais voici qu'il est écrit, Saül connut. Or personne n'a jamais connu ce qui n'existe pas. Saül connut donc que c'était Samuel, il tomba le visage contre terre et se prosterna. Puis de nouveau, celui qui parle dans l'Écriture dit, et Samuel dit à Saül, pourquoi as-tu troublé mon repos pour me faire monter? Samuel dit, c'est l'Écriture qui l'affirme, à laquelle il faut croire, Samuel dit, pourquoi as-tu troublé mon repos pour me faire monter? Puis Saül répond à cela, je suis dans une grande angoisse. Les étrangers me font la guerre et Dieu s'est détourné de moi. Il ne m'a plus répondu par les prophètes ni en songe. Alors j'ai appelé pour qu'on m'indique ce que je dois faire. Une fois de plus, l'Écriture n'affirme rien d'autre, sinon que Samuel lui-même a répondu, pourquoi me consulter quand le Seigneur s'est détourné de toi? Dit-elle vrai ou ment-elle en affirmant cela? Le Seigneur s'est détourné de toi et a pris parti contre toi. Il s'en est choisi un autre, comme il l'a dit par mon intermédiaire, et il arrachera de ta main le royaume. Alors un petit démon fait une prophétie sur le royaume d'Israël. Qu'en dit la thèse adverse? Voyez quelle difficulté soulève la parole de Dieu. Difficulté qui requiert aussi des auditeurs capables d'entendre des doctrines saintes, élevées, indicibles comme celles sur notre départ d'ici-bas. Car au point où nous en sommes, les objections s'accumulent contre la thèse précédente, et l'autre n'est pas encore claire. Mais nous n'en avons pas terminé avec l'examen du texte. Chapitre 5. Or, je dis que le sens historique lui-même et son examen sont nécessaires pour voir ce qui nous attend après la mort. Le Seigneur a parlé par mon intermédiaire, il arrachera de ta main le royaume et le donnera à ton voisin, à David. Un petit démon ne peut pas savoir que David avait été sacré roi par le Seigneur, parce que tu n'as pas écouté la voix du Seigneur et que tu n'as pas exécuté la colère de son courroux sur Amalek. Ces paroles ne sont-elles pas de Dieu? Ne sont-elles pas vraies? Il est tout à fait vrai que Saül n'a pas fait la volonté du Seigneur, mais qu'il a entouré d'égards le roi Amalek et l'a laissé vivre, comme Samuel l'a reproché à Saül avant sa mort et au moment même où Saül allait mourir. Et à cause de cela, le Seigneur a porté cette sentence contre toi en ce jour, et le Seigneur donnera Israël aux étrangers. Un démon peut-il prophétiser sur tout le peuple de Dieu et dire que le Seigneur livrera Israël? Oui, le Seigneur livrera le camp d'Israël aux mains des étrangers. Hâte-toi, Saül, demain toi et tes fils, vous serez avec moi. Est-ce là une chose qu'un petit démon peut savoir? Que David avait reçu l'onction royale avec l'huile du prophète, et que le lendemain Saül allait quitter la vie et ses fils avec lui. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Chapitre 6. Voilà qui montre bien que ce qui est raconté n'est pas mensonger et que c'est Samuel qui est monté. Que vient donc faire ici une nécromancienne? Que vient faire une nécromancienne pour faire monter l'âme du juste? C'est cela que voulait éviter l'homme qui soutenait la première thèse. En effet, pour ne pas avoir l'air d'éprouver de la difficulté devant tant d'autres choses qui font question dans ce chapitre, il dit encore, ce n'est pas Samuel. Le petit démon ment, car l'Écriture, elle, ne peut mentir. Mais ce sont là les paroles de l'Écriture, elles ne sont pas mises dans la bouche du petit démon lui-même, mais c'est l'Écriture qui affirme, et la femme vit Samuel. Samuel a dit. Les choses dites comme venant de Samuel. Comment donc trouver une solution satisfaisante au rôle de la nécromancienne dans ce passage? J'interroge celui qui a soutenu plus haut la première thèse. Samuel en enfer, etc. Qu'il réponde à la question, qui est le plus grand, Samuel ou Jésus-Christ? Qui est le plus grand, les prophètes ou Jésus-Christ? Qui est le plus grand? Abraham ou Jésus-Christ? Ici, quiconque est parvenu à savoir que le Seigneur Jésus-Christ est celui que les prophètes annonçaient, n'osera nier que Jésus-Christ est plus grand que les prophètes. Lorsqu'on admet donc que Jésus-Christ est plus grand, je demande, Christ a-t-il été en enfer ou n'y a-t-il pas été? N'est-elle pas vraie la parole des psaumes que les apôtres, dans leurs actes, ont interprétée de la descente du Sauveur en enfer? Il y est écrit que c'est à lui que se rapporte le verset du psaume 15. Tu ne laisseras pas mon âme en enfer, et tu ne laisseras pas ton saint voir la corruption. Alors, Jésus-Christ était en enfer, et tu as peur de dire que c'est bien pour prophétiser là-bas aussi et pour venir auprès des autres âmes qu'il y descend? Puis, si on répond que Christ est descendu en enfer, je dirai, Christ est descendu en enfer pour faire quoi? Pour vaincre la mort ou être vaincu par elle? Il est descendu dans ces lieux-là, non pas en esclave de ceux qui s'y trouvent, mais tel un maître qui va lutter, comme nous le disions naguère en expliquant le psaume 21. De nombreux taureaux m'ont encerclé, des bœufs gras m'ont entouré. Ils ont ouvert leur bouche contre moi comme un lion rapace et rugissant. Mes os ont été disloqués. Nous nous en souvenons, si du moins nous nous souvenons des Saintes Écritures. Je me souviens effectivement des paroles mêmes qui ont été dites sur le psaume 21. Donc le Sauveur est descendu pour sauver. Est-il descendu là-bas après avoir été annoncé par les prophètes ou non? Et quoi, ici-bas, il a été annoncé par les prophètes, mais ailleurs, il descendrait sans se servir des prophètes? Moïse aussi annonce que le Sauveur viendra dans le genre humain, en sorte que notre Maître et Sauveur dit à juste titre, Si vous aviez cru en Moïse, vous auriez cru en moi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment auriez-vous pu croire à mes paroles? Christ est venu dans cette vie, et il est annoncé à l'avance que Christ viendrait dans cette vie. Or, si Moïse prophétise sa venue ici-bas, pourquoi ne veux-tu pas qu'il soit descendu là-bas aussi pour prophétiser que Christ viendrait? Alors, Moïse oui, mais pas les prophètes suivants, pas Samuel. Qu'y a-t-il d'absurde à ce que les médecins descendent vers les malades? Et qu'y a-t-il d'absurde à ce que le médecin-chef descende lui aussi vers les malades? Les prophètes étaient de nombreux médecins, et mon Seigneur est sauveur et médecin-chef. Le fait est que la concupiscence intérieure, qui ne peut être guérie par d'autres, lui l'a guérie. Celle qui n'a pas pu être guérie par aucun des médecins, Christ Jésus l'a guérie. N'aie pas peur, ne crains pas. Chapitre 7. Jésus est allé en enfer, et les prophètes avant lui, et ils ont annoncé la venue du Christ. Puis je veux dire encore une autre chose qui est suggérée par le texte même. Samuel monte, et voici que la femme ne dit pas qu'elle a vu Samuel. Elle ne dit pas qu'elle a vu une âme. Elle ne dit pas qu'elle a vu un homme. Elle est effrayée par celui qu'elle a vu. Qui voit-elle donc? J'ai vu, dit-elle, des dieux montant de la terre. Ainsi, peut-être, Samuel n'est-il pas monté seul pour prophétiser une fois de plus à Saül. Mais vraisemblablement, de même qu'ici-bas, avec un homme saint, on se sanctifiera, avec un homme innocent, on sera innocent, et avec un élu, on sera élu, et de même qu'ici-bas, on trouve des saints vivant avec des saints, mais non des saints vivant avec des pécheurs, ou que si cela arrive, les saints vivent avec les pécheurs pour sauver aussi les pécheurs. De même, tu chercheras si, quand Samuel montait, il n'y avait peut-être pas montant avec lui des âmes saintes d'autres prophètes. Ou bien tu chercheras si ce n'étaient peut-être pas des anges, préposés à leurs esprits. Le prophète dit, L'ange qui parle en moi, ou s'il n'y avait pas des anges accompagnant les esprits. Tout est rempli d'êtres qui ont besoin de salut. Et les anges sont tous des esprits liturges envoyés au service de ceux qui doivent hériter du salut. Pourquoi as-tu peur de reconnaître que tout lieu a besoin de Jésus-Christ? Celui qui a besoin de Jésus-Christ a besoin des prophètes. Car il ne se peut pas qu'il ait besoin du Christ et qu'il n'ait pas besoin de ceux qui préparent la venue et l'avènement du Christ. De Jean aussi, que personne ne surpassait parmi les enfants des femmes, au témoignage de notre Sauveur qui disait « Parmi les enfants des femmes, il n'y a personne de plus grand que Jean-Baptiste. Ne crains pas de dire qu'il est descendu en enfer comme héros de mon Seigneur pour prédire que celui-ci y descendrait. C'est la raison pour laquelle, étant en prison et sachant sa fin prochaine, il a envoyé deux de ses disciples demander, non pas seulement « Es-tu celui qui vient? » car il le savait, mais « Es-tu celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre? » Il a vu sa gloire, il a beaucoup parlé de sa nature admirable, il lui a rendu témoignage le premier, celui qui vient après moi a existé avant moi. Il a vu sa gloire, gloire qu'il tient de son Père comme fils unique, plein de grâce et de vérité. Après avoir vu de si grandes choses sur le Christ, il hésite à croire, il doute, mais il ne dit pas « Demandez-lui, es-tu le Christ ?» Maintenant, en effet, il y a des gens qui, n'ayant pas compris ce qui est écrit, disent: Jean, si grand qu'il fût, ne connaissait pas le Christ. L'Esprit Saint l'avait quitté. S'il connaissait celui à qui il a rendu témoignage avant de naître et devant qui il a tressailli quand Marie elle-même est venue à lui, comme sa mère l'a attesté en ces termes: Voici que lorsque les paroles de ton salut sont venues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon ventre. Ce Jean donc, qui a tressailli avant de naître, qui a déclaré: C'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi a existé avant moi, et celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et rester, c'est le Fils de Dieu. Ce Jean, dit-on, ne connaissait plus Jésus-Christ. Dans le ventre de sa mère, il le connaissait. Mais en raison de la gloire suréminente de Jésus-Christ, il a fait quelque chose de semblable à ce qu'a fait Pierre. Quoi de semblable? Pierre connaissait quelque chose de grand sur le Christ. Qui suis-je? Qui les hommes disent-ils que je suis? Et lui de répondre: Ceci, cela. Mais toi, que dis-tu? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là-dessus, Pierre est déclaré bienheureux, parce que ce n'est pas la chair ni le sang qui le lui ont révélé, mais le Père qui est dans les cieux. Puisqu'il avait donc entendu de grandes choses sur le Christ, qu'il en devinait aussi de grandes, mais qu'il n'avait pas accepté la parole divine qui lui était adressée. Voici que nous montons à Jérusalem, et ce sera l'accomplissement. Et il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les grands prêtres et les prêtres, mis à mort, et que le troisième jour il ressuscite. Il répondit: Loin de toi, Seigneur. Il savait de grandes choses sur le Christ. Il n'a pas voulu accepter ce qui était plus humble à son sujet. Comprends donc que Jean est quelqu'un du même genre. Il était en prison en sachant de grandes choses sur Christ. Il savait les cieux ouverts, il savait l'Esprit Saint descendant du ciel sur le Sauveur et demeurant sur lui. Ayant vu une si grande gloire, il doutait et peut-être refusait-il de croire qu'un être aussi glorieux descendrait jusqu'à l'enfer et à l'abîme. C'est pourquoi il disait: Es-tu celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre? Chapitre 8. Ce n'était pas une digression et je n'ai pas oublié mon propos. Mais nous voulons établir que si tous les prophètes du Christ sont descendus en enfer avant le Christ comme précurseur du Christ, Samuel y est aussi descendu de cette façon. Car il n'y est pas simplement descendu, mais il y est descendu à titre de saint. Où qu'il soit, le saint est saint. Christ n'était-il plus Christ parce qu'il se trouvait une fois en enfer? N'était-il plus fils de Dieu parce qu'il était venu dans le lieu souterrain pour que tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ, parmi les êtres célestes, terrestres et souterrains? Ainsi Christ était Christ, même quand il était en bas. Pour ainsi dire, tout en étant dans le lieu d'en bas, par l'intention, il était en haut. De même, les prophètes et Samuel, même quand ils sont descendus là où sont les âmes d'en bas, peuvent être dans le lieu d'en bas sans être en bas par l'intention. Je demande alors, y ont-ils prophétisé les choses célestes? Pour ma part, je ne peux pas accorder à un petit démon une puissance telle qu'il prophétise au sujet de Saül et du peuple de Dieu, qu'il prophétise sur la royauté de David en annonçant qu'il va régner. Ceux qui prétendent cela vont savoir la vérité sur la question. Ils ne trouveront pas le moyen d'expliquer comment un médecin aurait pu venir pour le salut des malades dans le lieu des malades. Il faut que des médecins aillent dans les lieux où souffrent les soldats et qu'ils entrent là où règne la mauvaise odeur de leurs blessures. C'est ce qu'inspire la philanthropie médicale. De la même façon, le Verbe a inspiré au Sauveur et au prophète, non seulement de venir ici-bas, mais encore de descendre en enfer. Chapitre 9. Il faut ajouter au raisonnement que si Samuel était prophète, et si quand il est mort l'Esprit Saint l'a quitté et la prophétie l'a quitté, alors l'apôtre n'est pas dans la vérité quand il dit: En ce moment je prophétise partiellement, et je connais partiellement, mais lorsque viendra la perfection, alors le partiel disparaîtra. Donc la perfection ne vient qu'après la vie. Tout ce qu'Isaïe a prophétisé, il l'a, en toute assurance, prophétisé partiellement, tandis que le témoignage que rend ici Samuel à David atteint la perfection dans la prophétie. Samuel n'a donc pas rejeté la grâce prophétique, et parce qu'il ne l'a pas rejetée, il s'en servait comme ceux qui parlent en langue, en sorte qu'il aurait pu dire « Mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. » Toutefois, celui qui parle en langue n'édifie pas l'Église. Paul dit en effet que celui qui édifie l'Église, c'est celui qui prophétise. Il le dit en propres termes. Celui qui prophétise édifie l'Église. Or, si celui qui prophétise édifie l'Église et si Samuel avait la grâce prophétique, en effet, il ne l'avait pas perdue, n'ayant pas péché, car seul perd la grâce prophétique. Celui qui, après avoir prophétisé, a fait des choses indignes de l'Esprit Saint, en sorte que l'Esprit Saint le délaisse et s'enfuit de sa raison. C'est ce que craignait David après son péché, et il disait, N'enlève pas de moi ton Esprit Saint. Si donc l'Esprit Saint prophétise et que Samuel était prophète, et que celui qui prophétise édifie l'Église, qui est-ce que Samuel édifie? Prophétise-t-il en direction du ciel? Pour qui? Pour les anges? Ils n'en ont pas besoin, puisque ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Il y a des gens qui ont besoin de sa prophétie, car la grâce prophétique n'est pas faite pour rien. Aucun des charismes qui sont dans le saint n'est fait pour rien. C'était donc les âmes des défunts qui avaient, j'ose dire, besoin de la grâce prophétique. Eh oui, ici-bas, Israël avait besoin du prophète. Mais l'Israël défunt aussi, bien qu'il ait quitté la vie, avait besoin des prophètes, pour que de nouveau les prophètes lui annoncent la venue du Christ. Du reste, avant la venue de mon Seigneur Jésus-Christ, il était impossible que quelqu'un arrive là où est l'arbre de vie. Il était impossible qu'il passe outre les êtres postés pour garder le chemin de l'arbre de vie. Il a posté les chérubins et l'épée de feu tournoyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Qui pouvait frayer le chemin? Qui pouvait faire traverser à quelqu'un l'épée de feu? De même qu'il n'était au pouvoir de personne de frayer un chemin dans la mer, sinon au pouvoir de Dieu et de la colonne de feu, de la colonne de lumière qui vient de Dieu. De même qu'il n'était au pouvoir de personne de frayer un chemin dans le Jourdain, sinon au pouvoir de Jésus Josué, ce Jésus-là était la figure du vrai Jésus. De même, passer à travers l'épée de feu, Samuel ne le pouvait pas. Samuel ne le pouvait pas. C'est bien pourquoi Abraham est vu en enfer par l'homme châtié. Le riche qui était dans les tourments, levant les yeux, voit Abraham. Même s'il le voit de loin, du moins le voit-il, et Lazare dans son sein. Les patriarches, les prophètes et tous attendaient donc la venue de mon Seigneur Jésus-Christ pour qu'il leur ouvre le chemin. Je suis le chemin, je suis la porte. Il est le chemin vers l'arbre de vie, afin que se réalise la parole. Si tu passes à travers le feu, la flamme ne te consumera pas. À travers quel feu? Il a posté les chérubins et l'épée de feu tournoyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. C'est donc pour cela que les bienheureux attendaient exceptionnellement là-bas, parce qu'ils ne pouvaient pas aller là où est l'arbre de vie, là où il y a le paradis de Dieu, là où il y a un Dieu jardinier, là où sont les bienheureux élus et saints de Dieu. Il n'y a donc rien de scandaleux dans ce passage, mais tout y est admirablement écrit et compris par ceux à qui Dieu l'a révélé. Nous avons quelque chose de plus, nous qui sommes venus à la fin des siècles. Quoi de plus? Si nous partons d'ici en étant devenus vertueux et bons, sans porter les fardeaux du péché, nous passerons nous aussi à travers l'épée flamboyante, et nous ne descendrons pas au lieu où ceux qui étaient morts avant la venue du Christ l'attendaient. Mais nous passerons au travers sans que l'épée flamboyante nous cause aucun dommage. Le feu éprouvera l'œuvre de chacun pour voir ce qu'elle est. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte, mais lui sera sauvé comme à travers le feu. Nous passerons donc au travers, et nous avons ainsi quelque chose de plus qu'eux. Nous ne pouvons pas, si nous avons vécu bien, partir mal. Les anciens, pas même les patriarches et les prophètes, ne disaient ce que nous pouvons dire. Nous, si nous avons vécu bien, il vaut mieux se dissoudre et être avec le Christ. C'est pourquoi, ayant quelque chose de plus qu'eux et un gain considérable à être venu à la fin des siècles, nous sommes les premiers à recevoir le denier. Écoute en effet la parabole disant qu'il a donné le denier en commençant par les derniers, alors que les premiers croyaient qu'ils recevraient quelque chose de plus. Toi donc, qui es venu le dernier, tu reçois en premier le salaire du maître de maison. En Christ Jésus, notre Seigneur, à qui sont la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen.